Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 15 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. Au Burkina Faso, 8 soldats tués lors d'une attaque terroriste dans le nord du pays. En Éthiopie, 10 morts dans des bombardements sur la capitale de la région rebelle du Tigré. En Angola, le président João Lourenço doit être investi ce jeudi à Luanda pour un second mandat. Au Kenya, confusion après l'annonce d'une rupture des liens avec les indépendantistes sahraouis. Les pays pauvres réclament à Dakar un fonds pour couvrir les dégâts causés par le réchauffement climatique. Le président américain Joe Biden ouvre le salon de l'automobile de Détroit en mettant en lumière les électriques. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, 8 soldats ont été tués mardi dans le nord du pays lors d'une nouvelle attaque contre une unité militaire en patrouille. Le point avec Abdourahmane Dia.
Une unité du 11e régiment d'infanterie commando de Dori en patrouille sur l'axe Oursi-Déou a subi une embuscade de terroristes mardi, selon une source militaire. Les blessés, certains touchés gravement, ont été évacués. Des renforts ont été déployés dans la zone, a précisé cette source. Cette nouvelle attaque, la quatrième en moins de 10 jours dans le nord du Burkina, vient alourdir le bilan du mois de septembre, particulièrement meurtrier. Le 12 septembre, 2 soldats ont été tués et une dizaine de terroristes neutralisés lors d'une attaque complexe contre un détachement militaire, selon l'état-major des armées. Le 5 septembre, au moins 35 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués par l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement entre Djibo et Bourzanga. Le lendemain, au moins 9 personnes, 7 civils et 2 soldats, ont été tués lors de 2 attaques distinctes de djihadistes présumés qui ont visé des civils et une patrouille militaire. Lundi, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a limogé le ministre de la Défense et le remplace lui-même à ce poste.
Des hommes armés arrivés sur 2 motos ont attaqué un poste frontière isolé du nord du Bénin, dévalisant des douaniers qui n'étaient pas très protégés, ont annoncé mercredi les autorités, dans une région secouée par la présence de groupes djihadistes mais aussi criminels. Cette attaque semble plus liée à la criminalité ordinaire qu'aux djihadistes, a-t-on ajouté. L'armée béninoise est déployée dans la région septentrionale pour contenir les groupes djihadistes présents chez les voisins nigériens et burkinabés qui s'y aventurent et les menacent parfois, en plus des gangs de trafiquants très présents dans la zone. Dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, des rebelles ADF ont tendu une embuscade en commandant des forces armées sur la route Mbao-Kamango dans le territoire de Beni hier après-midi. Les détails avec notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Le porte-parole de l'armée dans la région de Beni, le capitaine Anthony Mwalushayi, a déclaré que le lieutenant-colonel Mbonzambayo Lucien a été tué dans cette embuscade. Il ajoute que dans l'échange des tirs, les éléments des forces armées ont réussi à tuer 4 rebelles ADF et récupérer une de leurs armes. La zone vient d'enregistrer 3 embuscades consécutives en quelques jours. Le président de la jeunesse de Mbao, Esdras Maté, invite les autorités à suspendre la circulation sur cette route jusqu'au retour de la sécurité. Les rebelles ADF sont accusés de plusieurs crimes dans cette partie de la RDC. Depuis plusieurs mois, les forces ougandaises et congolaises mènent des opérations conjointes pour tenter de venir à bout des rebelles ADF. Aussi, depuis plus d'un an, les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous état de siège, mais l'insécurité continue. Zanem Neti Zaidi, depuis Goma, pour VOA Afrique.
En Angola, c'est aujourd'hui que le président João Lourenço doit être investi à Luanda en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement pour un second mandat. Il a été reconduit après la victoire serrée de son parti aux législatives du 24 août, dont l'opposition a contesté les résultats. 10 personnes ont été tuées mercredi dans 2 frappes aériennes sur la capitale de la région dissidente du Tigré, selon des médecins. Les rebelles tigréens ont aussitôt accusé Addis Abeba de les avoir perpétrés. Dans la journée, le gouvernement éthiopien avait assuré qu'il restait engagé dans les pourparlers de paix de l'Union africaine auxquels les rebelles se disent prêts à participer. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le gouvernement éthiopien s'est engagé dans le processus de paix piloté par l'Union africaine et espère que l'Union européenne soutiendra les efforts visant à mettre pacifiquement un terme au conflit. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen. Il s'agissait de la première réaction du gouvernement éthiopien depuis que les rebelles tigréens ont annoncé dimanche qu'ils étaient prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine, une option qu'ils avaient jusqu'alors toujours rejetée. Des médecins tigréens ont affirmé hier que 10 personnes ont été tuées et plus d'une douzaine blessées dans 2 bombardements de drones à Mekele, la capitale du Tigré. Les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré ont accusé les forces fédérales et leurs alliés. Ils estiment que le régime d'Addis continue de s'opposer à toute solution pacifique à travers des démonstrations de force et des raids aériens meurtriers.
Un tweet du nouveau président du Kenya, William Ruto, annonçant mercredi une rupture des liens diplomatiques de son pays avec la RASD, République arabe sahraoui autoproclamée, a été supprimé quelques heures plus tard, ce qui a semé la confusion. Le Kenya annule sa reconnaissance de la RASD et prend des mesures pour réduire la présence de cette entité dans le pays, avait écrit mercredi matin sur Twitter M. Ruto, après des discussions avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Un peu plus tard, il a supprimé ce message sans fournir d'explication. Les pays les plus pauvres réclament que l'indemnisation des dégâts causés par le réchauffement climatique figure haut dans l'agenda de la COP27, la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, indique une déclaration de ce groupe réuni mercredi à Dakar. Au même moment, 2 hauts responsables gouvernementaux du Sénégal et de la République démocratique du Congo, participant à la conférence, ont refusé d'une même voix que leur pays renonce à l'exploitation future du pétrole et du gaz sous la pression des pays industrialisés au nom de la lutte contre le réchauffement. Une autre réunion des ministres africains est prévue jeudi, à laquelle est attendu l'émissaire américain pour le climat, John Kerry.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain et amateur d'automobile, Joe Biden, a pris part mercredi à l'ouverture du salon de Détroit. Cet événement reprend vie après 2 éditions annulées à cause du COVID-19, avec des constructeurs déterminés à mettre en avant leur transition vers les véhicules moins polluants, Mohamed Oumfa.
Arpentant les allées du salon, Joe Biden a rencontré les responsables de General Motors, Ford ou Stellantis, mais aussi du principal syndicat de l'automobile. À quelques semaines des élections de mi-mandat, tous les grands élus démocrates du Michigan étaient là. Il en a profité pour se mettre au volant d'une Cadillac Lyriq électrique et d'une Chevrolet Corvette Z06. « C'est une voiture magnifique », a dit Biden à propos de la Cadillac, « mais j'adore la Corvette dont il a fait vrombir le moteur ». Dans son discours, Joe Biden a mis en avant les mesures prises depuis son arrivée à la Maison-Blanche pour faciliter la transition vers l'électrique, comme les 7,5 milliards de dollars dégagés pour la construction de stations de recharge, une loi sur les semi-conducteurs, des composants essentiels pour les voitures truffées d'électronique et des subventions aux constructeurs comme aux automobilistes. Les acteurs du secteur ont cependant émis des réserves sur les nouvelles incitations à l'achat d'un véhicule électrique soumises à des conditions particulières comme un assemblage final en Amérique du Nord.
Quelques nouvelles en bref. En Suède, un bloc inédit réunissant la droite et l'extrême droite a remporté mercredi de justesse les élections législatives, chassant du pouvoir la gauche aux commandes depuis 8 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mercredi dans la région de Kharkiv, libérée, dit-il, de l'occupation dans sa quasi-totalité et y a promis la victoire au moment où sa ville natale était menacée d'inondation après une frappe russe sur des infrastructures hydrauliques. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement mercredi de nouvelles attaques à leurs frontières, entretenant une flambée de violence qui a fait plus de 150 morts et met en péril de fragiles négociations de paix. L'exécutif américain se débattait encore mercredi pour tenter d'éviter une grande grève des cheminots du fret aux États-Unis, qui a déjà conduit la compagnie Amtrak à annuler tous ses trajets grandes lignes et fait craindre des perturbations d'ampleur pour l'ensemble de l'économie. Et enfin, R. Kelly, star déchu du R&B, déjà condamné à 30 ans de prison en juin pour des crimes sexuels commis sur des jeunes femmes, parfois adolescentes, a été reconnu coupable de pédopornographie mercredi à Chicago. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Dans le cadre du projet de gazoduc Maroc-Nigéria, l'Office des hydrocarbures et la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria signent aujourd'hui à Rabat des accords avec la Société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen du Sénégal. Ce gazoduc de 7000 km fournira du gaz aux pays d'Afrique de l'Ouest, soit environ 85 millions de mètres cubes par jour le long de la côte ouest africaine, depuis le Nigeria jusqu'au Maroc. Des experts africains sont réunis à Lomé pour discuter des perspectives alimentaires et agricoles au Sahel et en Afrique de l'Ouest. La rencontre de 3 jours vise à faire le bilan à mi-parcours de la campagne agro-pastorale dans les pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, afin d'anticiper les risques potentiels de pénurie de production pour 2022-2023. Le fonds de capital risque technologique Django a réalisé la première clôture à 34 millions d'euros d'engagement pour son nouveau fonds de 60 millions. Les principaux investisseurs sont la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement et Boost Africa. Les fonds levés permettront de financer des entreprises fondées par des femmes ou bénéficiant aux femmes. 56% des sociétés du portefeuille de Django Capital sont dirigées par des femmes.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Youssef Sakni s'est blessé.
Oui, l'attaquant et capitaine de l'équipe nationale tunisienne s'est blessé mardi au genou avec son club Al Arabi en championnat du Qatar. Mais plus de peur que de mal, Youssef Sakni ne souffre d'aucune lésion au niveau des ligaments croisés, affirme la Fédération tunisienne de football. Le joueur a subi hier mercredi dans une clinique privée de Tunis des examens médicaux. Cette annonce devrait rassurer les fans tunisiens qui craignaient une absence du capitaine des Aigles de Carthage à la Coupe du Monde au Qatar prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. Auteur de 17 buts en 84 sélections, Youssef Sakni avait déjà manqué le Mondial en 2018 en raison d'une blessure au genou.
Quelques résultats des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions hier en Europe.
La Juve est déjà au bord du gouffre. Les Bianconeri ont concédé leur deuxième défaite en 2 matchs à domicile devant Benfica 1-2. Erling Haaland a terrassé son ancien club Dortmund pour offrir une victoire à l'arraché 2-1 à Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. 2 matchs, 2 buts grâce à Fede Valverde. Décisif en fin de match, le Real Madrid a arraché un succès 2-0 à domicile contre Leipzig. Le Napoli du Nigérian Victor Osimhen et du Camerounais Frank Zambo Anguissa a battu les Rangers 3-0, un but partout entre le Red Bull Salzbourg et Chelsea d'Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly et Hakim Ziyech.
Affaire Pogba, son frère Mathias Pogba et 3 autres personnes en garde à vue.
Mathias Pogba, le frère aîné du footballeur français Paul Pogba, et 3 autres personnes ont été placées en garde à vue hier mercredi en France. Dans l'enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus Turin, c'est ce qu'indiquent des sources judiciaires et proches du dossier. Mathias Pogba s'est présenté de lui-même en début d'après-midi le mercredi au service d'enquête et a été placé en garde à vue, a précisé la source proche du dossier. Paul Pogba est au centre d'une rocambolesque affaire liée à des tentatives d'extorsion présumées à son encontre. La mère du joueur et son agente, Rafaela Pimenta, dénonce des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée, disant la star dans une vidéo. Le frère aîné de Paul, Mathias Pogba, accusait son frère d'avoir engagé un marabout pour jeter un sort sur Kylian Mbappé, équipier de Paul en équipe nationale.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, environ 30 personnes ont été tuées lundi par des hommes armés à Fadiaga, dans le territoire de Kouamout au Maïndombe. Selon des informations de la société civile, le bilan pourrait être encore plus lourd. Et les autorités du Maïndombe affirment avoir dépêché des émissaires sur place pour une enquête. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï.
Des sources à Kouamout affirment que les événements se sont passés lundi matin au village Fadiaga, à 200 km de Kouamout Centre, dans le groupement de Baboma Sud. C'est non loin de la nationale numéro 17 qui va à Banonville. Des hommes munis d'armes blanches et à feu ont d'abord tué le chef du village et sa famille avant de tuer plusieurs autres personnes. Guimo Somo, député national élu de Kouamout.
Les assaillants sont entrés dans ce village-là vers 6h du matin et sont allés droit chez le chef de terre là-bas. Ils l'ont tué et sa famille. Et puis ils ont commencé à tirer sur la population. Bon, et ceux qui étaient capables de nager ont nagé la rivière Kwango pour aller se réfugier au village d'à côté. Donc on a tué près de 35 personnes, un peu plus de 35 personnes, parce que les chiffres diffèrent d'une personne à l'autre.
Si depuis le début, on a toujours parlé des Bayaka qui s'en prenaient au Bateke, l'assaut de ce lundi matin impliquerait des personnes très bien organisées et bien armées. On parle des gens costauds. Martin Fouta, société civile de Kouamout.
Selon les informations de là, ils doutent que ce soit les Yaka. Ils ont dit des hommes robustes dont on n'arrive pas à identifier. Ils ne sont pas vraiment en tenue d'armée, mais là-dedans, il y a même des armes militaires, ainsi de suite. Ils ont quitté la grande route, la principale, allant vers Kinshasa, Bandundu-Ville. Ils sont sortis de ce côté-là. Et les a surpris le matin vers 5h, ils ont commencé à tuer et à brûler, même à incendier même les maisons. Ils ont tué vraiment en grande partie la population. Bon.
Le conflit s'est déplacé des groupements Bateke Sud vers Baboma Bankou et maintenant c'est celui de Baboma Sud qui est touché. Des informations qui poussent à penser qu'il y a un plan bien ficelé qui date de plusieurs mois, selon le député Guy Mosomo.
La situation embrase maintenant pratiquement tous les territoires de Kouamout. Ce n'est plus le groupement de Bateke Sud. Alors, selon nous, c'est un plan bien outillé, organisé, qui s'était mis en place peut-être pendant longtemps. Certainement, il y a un instigateur invisible qu'on ne saura pas nommer lorsque le service de sécurité ne fera pas très bien le travail.
Une réunion du Conseil provincial de sécurité du Maïndombe a été organisée mardi par la gouverneure des provinces. Rita Bola se réserve d'avancer un quelconque bilan avant le retour des émissaires dépêchés sur place à Fadiaga. Dimanche dernier, une délégation de chefs coutumiers Basuku, Bateke, Bayaka, accompagnée de l'armée, a réussi à récupérer plus de 500 machettes et une dizaine d'armes à feu à Machambio, l'un des épicentres du conflit. L'armée a aussi capturé une dizaine de meneurs. Le gouvernement affirme mettre tout en œuvre pour résoudre ces conflits. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La boucle du Mouhoun est la plus grande région du Burkina Faso avec 6 provinces. Elle est aussi par excellence la région la plus agricole du pays, avec une production céréalière d'au moins 1 million de tonnes par an. Depuis maintenant un an, cette partie appelée le grenier du Burkina est complètement tombée entre les mains des groupes armés. Conséquence, on craint une insécurité alimentaire dans le pays, nous dit notre correspondant Abobo Djoulasso, Alidou Ouedraogo.
Bien, en ce qui concerne la production céréalière dans la boucle du Mouhoun, et plus particulièrement au Burkina Faso, elle sera très difficile pour cette campagne. Compte tenu de ce que nous connaissons avec l'installation des djihadistes dans beaucoup de régions de notre pays, qui ont chassé les paysans de leurs exploitations.
C'est en ces termes que Bassia Kadao, le président de la Confédération paysanne du Burkina, donne d'autres raisons qui compliquent la situation.
Au-delà des djihadistes, vous avez la cherté des intrants agricoles qui sont partis du simple au triple. Le sac d'engrais qui coûtait entre 15 000 à 16 500 est parti entre 35 000 et 37 000 dans certaines régions qui ne sont pas à la portée des petits producteurs.
Obligé de partir un beau matin en laissant tout derrière soi, Ibrahim Souri avait une exploitation de 13 hectares à Kouleri. Il a trouvé refuge avec sa famille de 13 personnes à Nouna, à une centaine de kilomètres au sud.
Nous avons quitté nos terres pour nous réfugier ici. On croyait qu'on y retournerait aussi rapidement. Nous sommes en plein hivernage et c'est bien fini pour cette saison. Il faut que l'État fasse tout pour qu'on y retourne rapidement.
Mamadou Sanogo, un autre producteur, témoigne.
L'agriculture est tout pour nous. S'il n'y a pas ça, c'est grave. Si nous n'arrivons plus à cultiver, nous serons obligés de quitter le pays pour d'autres horizons.
Dans les centres urbains, le sac de maïs de 100 kg jadis à 12 000 francs CFA s'est négocié hors de prix.
Le sac de maïs, il faut aller jusqu'à quelque chose de 30 000 francs pour avoir un sac de maïs. L'insécurité alimentaire là était inévitable. Et la boucle du monde étant le grenier même du Burkina, il y a pas mal de zones où les gens ont quitté.
Bassia Kadao, le président de la Confédération paysanne, donne des pistes de solutions.
Avec la maîtrise des eaux, dans certains bas-fonds et au bord de certains retenues, avec ceux qui ont des forages à grand débit agricole, pour pouvoir combler les gaps de ce que nous faisons. Et l'autre aspect, c'est de changer nos régimes alimentaires, en utilisant beaucoup de légumes, de ne pas rester uniquement que sur les céréales. Cette année-là, nous avons fixé des objectifs d'atteindre au moins 6 millions de tonnes, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir atteindre au moins les 6 millions de tonnes.
Ali Doudraogo, Bobo Dulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Oubliez la route de la soie, la nouvelle frontière de la Chine dans la quête d'influence en Afrique va au-delà de la planète Terre. Le géant asiatique considère le continent comme un partenaire important dans ses ambitions spatiales. Un reportage de Kate Bartlett à Johannesburg. Le récit est de Michel Joseph.
Que mangent les astronautes dans l'espace? C'est la question d'un étudiant éthiopien lorsque des jeunes de 8 pays africains ont pris part à une discussion avec des astronautes chinois en orbite. L'événement, qui s'est déroulé par liaison vidéo, a été organisé par la mission chinoise auprès de l'Union africaine. Sur cette question de nourriture dans l'espace, voici la réponse de l'un des astronautes chinois, Kai Huzi, diffusée par le média chinois CGTN.
Every ground team has prepared more than 1,000 varieties of food.
Notre équipe au sol a préparé plus de 1000 variétés de nourriture. Regardez, nous avons une délicieuse bouillie de riz, un savoureux maïs doux sauté, du bœuf sauté dans une sauce au poivre noir. Nous avons aussi du riz.
L'événement était une démonstration de soft power de la part de Pékin, mais indique aussi l'importance que la Chine accorde au rôle de l'Afrique pour l'aider à jouer dans la course spatiale. Temidayo Onyosun, un spécialiste nigérian de l'espace et directeur général du site web Space in Africa, a expliqué à la VOA que l'économie spatiale africaine est évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et qu'elle devrait croître de quelque 16% au cours des quatre prochaines années.
L'industrie spatiale en Afrique se développe à un rythme incroyable. C'est pourquoi des pays et des régions comme la Chine, l'Europe, la Russie et les États-Unis commencent à se faire concurrence pour obtenir une part de cette industrie.
Cependant, à ce jour, seuls 13 pays africains disposent de 48 satellites, dont 6 construits par la Chine. La Chine a lancé le premier satellite de communication du Nigeria en 2007 et son deuxième 4 ans plus tard. Elle a également lancé le premier satellite de communication de l'Algérie en 2017, ainsi que les premiers satellites de l'Éthiopie et du Soudan en 2019. Selon les experts, la Tunisie était en 2018 le site de la première station de réception terrestre du système de navigation par satellite Beidou en dehors de la Chine. l'espace est peut-être plus abstrait que les projets d'infrastructure de l'initiative La Ceinture et la Route. Mais ces projets peuvent être l'une des motivations de l'intérêt de la Chine pour les programmes spatiaux des nations africaines. Temidayo Onyosun, directeur général du site web Space in Africa.
Ces engagements ne sont pas nécessairement dus au fait que la Chine et les autres s'engagent pour aider l'Afrique. Ils le font parce qu'ils obtiennent un capital économique, social et culturel en retour.
Julie Klinger, qui a étudié les relations spatiales entre la Chine et l'Afrique, a mentionné dans sa recherche en 2020 que la construction de réseaux de satellites de télédétection en Afrique a permis à la Chine de soutenir l'intégration logistique des États partenaires de la ceinture et la route. Madame Klinger, qui enseigne à l'Université du Delaware, explique les raisons qui poussent les pays africains à accueillir la Chine.
Un autre aspect important de la coopération spatiale sino-africaine concerne le changement climatique, la surveillance de l'environnement et la gestion des catastrophes.
Selon Madame Klinger, des événements tels que la discussion des élèves avec les astronautes chinois contribuent à susciter l'intérêt de la jeunesse africaine pour l'espace et à remettre en question l'idée que l'espace est un luxe pour l'Afrique.
La mort de la reine Elisabeth II a suscité une avalanche de réactions en Afrique. Au Kenya, l'on se souvient de sa visite en 1952, mais le décès de la monarque a également ravivé un débat sur le passé colonial qui a laissé des blessures ouvertes. De Nairobi, un reportage de Juma Majanga, le récit est de Mohamedou Humfa.
C'est lors d'une visite au Kenya qu'elle a appris le décès de son père, le roi George VI, devenant ainsi la nouvelle reine. Son accession au trône est intervenue alors que les colonies africaines réclamaient leur indépendance. La reine Elisabeth II devait superviser le processus de décolonisation dans l'empire colonial britannique. Macharia Munene, professeur d'université.
Elle a pu s'adapter à la réalité du déclin impérial. Puis transformer ce déclin en une meilleure chose, quelque chose de commun dont les gens peuvent faire partie, c'est-à-dire le Commonwealth.
Pour certains Africains, la domination coloniale britannique est synonyme d'exploitation. Ils condamnent la reine, représentante des intérêts britanniques, pour les atrocités de cette période. Gituwa Kahengiri, vétéran de l'Association des survivants de la révolte des Momo.
Personnellement, je n'oublierai pas que j'ai été incarcéré pendant 7 ans. Je ne peux pas oublier que j'ai été mis avec mon père. Je ne peux pas oublier que j'ai laissé mes enfants pendant 7 ans sans nourriture, sans éducation. Ça, je ne l'oublierai jamais.
Mais avec la disparition progressive du colonialisme, les mauvais souvenirs de la domination britannique en Afrique s'estompent. Macharia Munene.
Elle signifiait beaucoup pour bon nombre de gens. Pour les sujets coloniaux à l'époque, elle était le symbole du mal qu'était le colonialisme. Avec l'indépendance, elle a pu se transformer en une personne sympathique. Et en tant que personne, elle était sympathique.
La reine Elisabeth était largement admirée et considérée comme un modèle par de nombreuses personnes sur le continent. C'est en tout cas l'avis de plusieurs Africains.
L'héritage qu'elle a laissé restera profondément enraciné dans le cœur des générations à venir.
Pour moi, c'est juste triste. Je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est triste pour beaucoup de gens dans le monde entier et surtout pour l'Angleterre.
Je n'ai jamais connu d'autre dirigeant qui a duré aussi longtemps. Donc que cela se produise maintenant signifie que chaque homme a une fin.
Les analystes pensent que le plus grand héritage de la reine Elisabeth est la création du Commonwealth. Après sa mort, il revient désormais au nouveau roi, Charles III, de le perpétuer.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.